Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la géopolitique. Aujourd'hui, nous allons parler de la géopolitique des drogues. Et je vous rassure, personne autour de cette table n'est spécialiste de la question, à part peut-être Antoine, avec qui on a des doutes sur les activités nocturnes. Nous allons discuter dans un premier temps de l'état des travaux de Michel Grandillon, qui est un spécialiste de la géopolitique de la drogue. Dans un second temps, nous parlerons des problèmes de la guerre autour des drogues en Amérique latine. Antoine nous parlera du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un organe exécutif à influence mineure. Quant à Lamia, elle continuera de discuter de la Turquie avec Erdogan et son rapport à la religion. Bonne écoute à toutes et à tous. Michel Grandillon est un spécialiste de géopolitique de la drogue. Il est membre du Conseil d'orientation scientifique de l'Observatoire des criminalités internationales, abrégé en OPS-SI. Il est expert associé auprès du département de la sécurité et de la défense du Conservatoire national des arts et des métiers, toujours plus long, CNAM. Il a publié un livre lors de l'été 2023 intitulé Drug Store. C'est ce livre-là qui va nous intéresser pour parler de la géopolitique de la drogue. En voici sa thèse. Après Homo sapiens, Homo addictus, somme pour les pouvoirs publics, guide pour les citoyens ordinaire, traité sur les dérives d'aujourd'hui et les dangers de demain, cet ouvrage éminent montre que la grande désagrégation qu'entraîne la drogue ne fait que commencer et explique quelle mobilisation générale à tous les niveaux doit y répondre. Ensemble, nous allons essayer de comprendre pourquoi la question de la drogue est fondamentalement géopolitique.
Effectivement, la question de la drogue est éminemment géopolitique puisqu'il y a des routes internationales et une multiplicité d'acteurs dans ce secteur de la drogue avec des trafiquants, des consommateurs, mais également des États qui ont des guérillas pour conséquence. En fait, la drogue donne lieu à une guerre de territoire à toutes les échelles, de la production à la consommation jusqu'à la revente. Ici, on peut prendre l'exemple de Marseille et ce constat, il est très ancien puisqu'en effet, Michel Grandillon a dit « Le commerce des drogues a joué un rôle majeur dans la genèse de la mondialisation du premier capitalisme. » En effet, on peut par exemple citer l'épisode de la guerre de l'opium qui concernait les empires britanniques et chinois où, pour cause de l'opium, la Chine a été obligée d'ouvrir ses frontières puisque c'était un business qui était assez lucratif et donc ça a mené à une guerre entre les empires. On peut donc parler, entre guillemets, d'une intoxication de la paix puisque ça a donné lieu à la première législation internationale à propos des drogues. Par ailleurs, on peut également mentionner la division du travail international en ce qui concerne les drogues, à l'appui d'une statistique de l'ONU qui dit que 1700 tonnes de cocaïne en Colombie sont produites. On a donc une production qui se fait surtout dans le sud, enfin dans les pays du sud en tout cas, et en revanche une consommation qui est davantage dans le nord, même si évidemment de plus en plus cela est à nuancer. Il faut néanmoins se rappeler que la drogue est évidemment un commerce illicite qui implique des groupes armés criminels ou encore politiques. On peut notamment citer le FARC colombien qui, à une époque, finançait ses actions politiques par la vente de drogue.
On va à présent tenter d'avoir un regard un petit peu plus contemporain en se rapprochant de l'Afghanistan, qui est un gros producteur de drogue. Et qui sont ces producteurs précisément? Eh bien, ce sont les paysans afghans qui vont produire majoritairement la drogue pour survivre dans un pays qui est évidemment très pauvre et dont la situation politique est grave. En 1979, c'est-à-dire la date où la guerre de l'Union soviétique est déclarée en Afghanistan, eh bien, il y a très peu d'opium qui est produit dans ce pays. Il se trouve que cette guerre, déclarée donc en 1979, a détruit les irrigations et les exploitations de ces paysans, et c'est donc pourquoi ils se sont lancés dans la production de drogue pour survivre. Alors l'opium, qui est transformé en héroïne, a financé la résistance à l'URSS en complicité avec les services secrets pakistanais. C'est ce dont Manon vous a parlé. Les États ont parfois un rôle important à jouer dans la production de drogue. Pour continuer dans cette idée que les États ont un rôle géopolitique dans la production, eh bien nous pouvons discuter du fait que l'opium a permis de lutter contre le terrorisme et ceci avec la couverture de la CIA. Le Laos a donc été instrumentalisé durant de longs moments dans cette même idée. Si on se concentre rapidement sur l'Amérique latine, puisqu'on va vous en reparler dans une seconde partie de l'émission, eh bien, on se rend compte que c'est le marché le plus porteur, avec le Pérou, la Colombie et la Bolivie, qui sont les principaux producteurs de cocaïne, dont la Colombie, bien évidemment, est le principal. En Amérique latine, ce commerce s'est développé dans les années 80, avec pour objectif de toucher le marché américain. Pour autant, l'argent qui a été récolté de ce commerce a permis de financer les FARC, comme vous l'a dit Manon, mais aussi des milices paramilitaires, et donc par conséquent la guerre civile. Il se trouve que la Colombie, aujourd'hui, continue de produire du cannabis et diverses drogues, tout simplement parce qu'elle a de l'expérience, puisque déjà dans les années 1960, les routes commerciales entre les pays du Nord et la Colombie existaient déjà. La drogue a une relation forte, bien évidemment, avec les morts, avec les décès, puisque la drogue a fait des centaines de milliers de morts dans le monde, notamment au Mexique et en Amérique centrale. On parle du cartel de la drogue en Amérique centrale, où ce sont des organisations qui sont grandissantes d'année après en année, qui ont pour objectif de gérer ce commerce-là. Donc, à partir de 2006, le président mexicain va être obligé de déclencher une guerre contre les différents cartels de drogue, une guerre sanglante, puisque nous dénombrons plus de 300 000 morts et plus de 80 000 disparus. Il s'agirait donc d'une guerre sans fin.
Je l'ai mentionné précédemment, en effet la consommation de drogue elle se fait surtout dans les pays du Nord, mais on a de plus en plus une consommation locale avec notamment l'émergence des classes moyennes dans ces pays en développement, ce qui mène à des marchés de plus en plus locaux qui sont difficiles à contrôler. Donc selon Gandillon, il est peut-être trop tard car la paupérisation paysanne est de plus en plus forte dans le monde. Et c'est évidemment de là que vient principalement la production. Gauthier a cité l'Afghanistan tout à l'heure et en juin 2022 on a eu une fatwa contre l'opium qui s'est suivi de faits. Le problème de cette décision, c'est qu'évidemment, elle crée une pénurie d'héroïne en Europe, ce qui ouvre une fenêtre de tir pour le fentanyl, qui est une drogue encore plus dangereuse et qui est produite en Chine et au Mexique. Selon l'auteur, comme les téléphones portables, la cocaïne est l'illustration de la mondialisation. C'est la drogue du néolibéralisme. Dans ce sens, l'industrie pharmaceutique a longtemps joué un rôle dans la géopolitique de la drogue, avec la production délibérée de médicaments addictifs ou antidouleurs. Ce sont les cartels des blouses blanches, notamment aux États-Unis, avec des intoxications de millions d'Américains, on parle de 750 000 morts en 20 ans. Également, si on devait mentionner par exemple le rôle de la drogue dans le PIB mondial, cela représente 400 à 600 milliards de dollars, ce qui est évidemment une somme colossale. Pour terminer, on pourrait s'intéresser aux conséquences qu'a cette drogue en Europe de nos jours, et on voit que dans des pays comme par exemple le Pays-Bas ou la Belgique, on voit que les trafiquants de drogue essaient de plus en plus de prendre possession des grands ports, et ça a des représailles sur par exemple les dockers.
J'espère que ce point sur la géopolitique de la drogue a pu vous intéresser. Je sens qu'Antoine a quelque chose à dire là-dessus.
Oui, on a intitulé donc ce premier axe la géopolitique de la drogue. Ce qui est important de rappeler, c'est aussi, et je vais ramener un peu ça du coup à ma chronique Hard Power, c'est surtout une question maintenant de sécurité intérieure pour les pays. On voit bien que ça déstabilise totalement l'aspect sécuritaire au sein des pays et c'est une préoccupation majeure. On voit bien en ce moment, par exemple, le ministère de l'Intérieur en France, on voit bien qu'il y a des quartiers en France qui sont, on pourrait pas dire tombés, mais en tout cas qui sont sous l'influence de dealers. Et le problème, c'est que c'est un phénomène qui est en train de s'étendre et qui n'est pas seulement dans des quartiers, mais par exemple en pleine rue du centre-ville. Par exemple, on pense bien sûr à Marseille, mais il n'y a pas que cette ville qu'on doit stigmatiser. Et donc des règlements de compte qui peuvent faire des victimes civiles.
Oui, effectivement, il y a des problèmes sécuritaires de la production jusqu'à la consommation. C'est un circuit mondial, mais qui a des répercussions locales. Chose à dire ? Non, pas spécialement. Alors je me permets d'enchaîner directement avec la chronique Hard Power.
Bienvenue dans Hard Power, une chronique du géopolitique qui analyse les enjeux de défense et de sécurité à l'international. Antoine vous accompagne au cœur de la géopolitique mondiale avec sérieux et légèreté.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, un organe exécutif à influence mineure, c'est le titre de ta chronique Hard Power aujourd'hui, Antoine. De quoi tu vas nous parler ?
Alors la dernière fois, je vous avais parlé de l'ONU de façon générale en vous présentant cette institution de sa création jusqu'à ses missions actuelles. Je vous avais aussi rapidement présenté ses domaines de compétences, ses moyens et puis également son organisme et sa structure. Puis dans la Charte des Nations Unies, hormis les articles qui précisent les objectifs, on retrouve aussi une énumération et une présentation des différents organes qui composent l'ONU, dont celui que je vais aborder aujourd'hui, le Conseil de sécurité, qui est l'organe exécutif des Nations Unies.
Cet organe exécutif, donc, est-ce que tu peux nous le présenter brièvement et nous dire quelle est sa responsabilité principale ?
Alors effectivement, très brièvement, le Conseil de sécurité de l'ONU est tout simplement chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Autrement dit, dès que la situation peut échapper et déraper avant qu'une situation devienne violente, guerrière, le rôle du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est d'anticiper cela, et si malheureusement le conflit explose, eh bien ce Conseil doit essayer de le résoudre, nous verrons un peu plus tard par quels moyens. Autrement et encore plus simplement dit, le Conseil de sécurité réagit au cas par cas aux crises qui surgissent dans le monde, soit en anticipant la crise, soit en essayant d'en atténuer la portée et la durée.
Alors ça, c'était des informations un peu généralistes, mais Antoine, j'ai confiance en toi pour aller un petit peu plus en profondeur. Est-ce que tu peux nous rappeler les membres, leurs fonctions du Conseil de sécurité de l'ONU ?
Alors bien sûr Gauthier, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un total de 15 membres, dont 5 permanents, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Ce sont donc les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, comme vous l'aurez remarqué et compris. Les autres membres sont non permanents et élus pour 2 ans par l'Assemblée Générale et renouvelés par moitié tous les ans. Ça c'était pour sa composition. Maintenant sa fonction principale, c'est de voter des résolutions qui une fois votées doivent s'appliquer à l'ensemble des pays membres. Ces résolutions doivent définir le mandat, les effectifs de la mission, en réalité poser le cadre précis dans lequel s'inscrira la mission du Conseil de sécurité. Et puis ces résolutions, surtout, elles poursuivent différents buts. Elles recherchent différents objectifs et n'ont pas les mêmes cibles. On retrouve des résolutions ainsi qui ont davantage de valeur de recommandation, qui vont plutôt mettre en garde les pays ou leur donner la voie qui serait davantage souhaitable, toujours dans un objectif d'équilibre et de stabilité. D'autres résolutions prennent quant à elles clairement des sanctions, notamment économiques. Et puis enfin, certaines peuvent même engager des opérations militaire. Une fois les résolutions votées, ce qu'il est important de rappeler, c'est que ce n'est pas du tout la fin du processus, puisqu'il s'agit ensuite, et vous en doutez bien, d'évaluer l'efficacité et à terme de modifier la résolution pour qu'elle soit encore davantage plus proche de l'objectif recherché.
Si je devais tracer un tableau virtuel, qu'est-ce que je mettrais du côté des forces et qu'est-ce que je mettrais du côté des faiblesses du Conseil de sécurité de l'ONU ?
Alors Gauthier, ce que je dois dire ici, c'est que les forces de ce Conseil de sécurité sont aussi ses faiblesses et ses faiblesses sont en même temps ses forces. Bref, je vais prendre des exemples et vous comprendrez sûrement mieux cette phrase qui ne voulait pas dire grand-chose. Développé avec une dimension multilatéraliste, c'est-à-dire une discussion entre différents acteurs et une décision consentie et acceptée après de multiples concertations, le Conseil de sécurité peut engager des opérations militaires communes. Mais si ces opérations sont des forces, elles peuvent devenir des faiblesses lorsque celles-ci ne sont pas unanimes. L'exemple le plus parlant, et sans aucun doute les opérations bien sûr en Irak. En 1991, vous avez 34 pays qui interviennent pour contrer l'offensive irakienne de Saddam Hussein sur le Koweït. C'est une opération concertée et décidée par le Conseil de sécurité. Mais en revanche, en 2003, le Conseil de sécurité est impuissant face à la puissance américaine dans ce que l'on appelle la Seconde Guerre du Golfe. Ensuite, l'ONU peut compter pour ses opérations de maintien de la paix sur les casques bleus qui ont plusieurs missions. Protéger les populations, d'abord, aider les pays dans leur reconstruction, renforcer les institutions des pays en transition. Mais là encore, quelle légitimité pour ces forces qui disposent d'aucun moyen coercitif et qui n'ont en aucun cas une armée de métier ou internationale ? C'est bien une force à première vue, mais en réalité une force de façade qui n'a pas ou plus réellement d'écho aujourd'hui. Enfin, le droit de veto. En effet, chaque membre, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais permanent dispose d'un droit de veto qui lui permet de bloquer toute décision. Et il suffit effectivement qu'un membre utilise ce moyen pour bloquer tout le processus. Donc on voit bien que c'était à la fois un élément de force, parce qu'il permet justement en concertation de dire si l'opération est viable ou pas. Et en même temps, il peut bloquer une intervention qui serait décisive pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Alors en résumé, pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU est tant décrié de nos jours ?
Alors en effet, le Conseil de sécurité de l'ONU est aujourd'hui décrié, et ce pour de multiples raisons. D'abord pour son manque de représentativité. Comment expliquer que la décision finale repose sur 5 membres quand on sait que l'ONU compte aujourd'hui 193 pays membres ? Je ne vais pas m'engager ici dans un calcul mathématique en direct, mais cela représente, on le voit très bien, une faible proportion de pays tout de même. De plus, ces 5 membres permanents sont, comme je l'ai dit au début, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais ils ne représentent plus aujourd'hui les réalités géopolitiques contemporaines, ou tout du moins, ils sont insatisfaisants. De nombreux pays manquent à l'appel, quand bien même ils jouent un grand rôle sur la scène internationale. On peut penser à l'Inde, à l'Égypte, à l'Allemagne, au Brésil. Et puis enfin, le droit de veto est également un élément aujourd'hui qui est fortement décrié.
Alors est-ce que des réformes sont envisagées ?
Alors des groupes ont été formés afin de changer un peu cette organisation, mais si des changements il y a, ils n'interviendront vraisemblablement pas demain. Certains pays chefs d'État s'impatientent, c'est le cas de Volodymyr Zelensky. Celui-ci a en effet demandé une réforme, car aujourd'hui la Russie étant membre du Conseil de sécurité de l'ONU, toute résolution à l'encontre de la Russie qui a, je vous le rappelle, agressé l'Ukraine est bloquée. Logique, vous me direz. C'est ainsi que le chef d'État ukrainien a dit, je cite, « Il est impossible d'arrêter la guerre parce que toutes les actions sont soumises au veto de l'agresseur. » Il a raison et cela n'est pas prêt de changer. On voit donc bien finalement qu'impuissante dans la résolution des conflits, je dirais même son anticipation. Faut-il rappeler que l'ONU avait déjà voté des résolutions dans le conflit israélo-palestinien ?
Regardez où nous en sommes. En plus de cette impuissance, donc, ce Conseil de sécurité de l'ONU se voit concurrencé par des organisations supranationales. On pense bien sûr à l'OTAN. Même si je ne veux pas paraître pessimiste et qu'il faut croire à la construction de la paix de façon collective, durable, à l'heure où nous nous parlons, ce n'est sans doute pas vers l'ONU qu'il faut se tourner, ni vers son organe exécutif que représente le Conseil de sécurité. Conçu comme un gestionnaire de crise, le Conseil de sécurité se transforme plutôt en un organe dans lequel le jeu des puissances ne permet plus l'action, mais l'immobilisme aux conséquences, nous pouvons d'ores et déjà le dire aujourd'hui, un peu désastreuse.
Bon, eh bien, tout compte fait, je l'ai eu, hein, ma phrase de poète. Merci beaucoup Antoine, c'était Hard Power. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ta chronique. Merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter.
L'Amérique latine, c'est ce sur quoi nous allons nous concentrer pour cette partie 2, puisqu'en effet, c'est l'Amérique latine qui est le principal fournisseur de cocaïne dans le monde, avec, comme tu l'avais mentionné en première partie d'épisode, le Pérou, la Bolivie et la Colombie comme principaux producteurs. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, la production de cocaïne de ces trois pays était estimée à 2000 tonnes en 2017, c'est-à-dire environ la moitié de la production mondiale. Donc pour étudier cette drogue en Amérique latine, on va s'appuyer sur un article de Marie-Esther Lacuisse dans l'article « Les enjeux de la lutte contre la drogue en Amérique latine ». C'est un article qui a été publié sur le site de Sciences Po Paris par l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc Marie-Esther Lacuisse, qu'est-ce qu'elle dit finalement? Elle dit « La production et le trafic de drogue en Amérique latine, en particulier la cocaïne, relèvent d'enjeux et soulèvent des problèmes qui relèvent de diverses actions publiques comme l'agriculture, la santé, l'éducation, les violences urbaines et internationales. »
À partir de cette citation claire, précise, concise comme on les aime, on peut dire qu'en ce qui concerne la lutte contre la drogue dans les pays fortement touchés, on avait au départ surtout des pressions exercées par des pays extérieurs et notamment par les États-Unis. En effet, le problème de la drogue semblait prépondérant pour les pays receveurs et consommateurs, mais du côté des pays producteurs, eux, eh bien, ils ne pouvaient pas, par exemple, avoir leur économie basée sur ce trafic. Alors évidemment, on a eu des évolutions puisque désormais, c'est un problème qui se répand de manière incontrôlée. Mais les pays producteurs, eux, pouvaient par exemple avoir leur économie basée sur ce trafic. Alors évidemment, on a eu des évolutions puisque désormais c'est un problème qui se répand de manière incontrôlée et quand la lutte contre la drogue n'était qu'au départ pas forcément la priorité des pays producteurs, aujourd'hui elle l'est. Alors les solutions qui ont été apportées viennent dans un premier temps des États-Unis avec une véritable war on drugs. On a des programmes qui sont très répressifs et qui sont menés notamment sous Ronald Reagan. On peut citer le plan Colombie dans les années 90, mais ce n'est pas le seul plan puisque d'autres programmes similaires avaient été menés en Bolivie, mais aussi au Pérou. On se retrouve avec des systèmes militaires de surveillance qui sont couplés à une baisse de la demande en drogue de la part des États-Unis, mais cela n'impacte pas les autres parties du monde qui, elles, restent toujours aussi demandeuses en drogue. Alors que les États-Unis avaient le monopole dans la lutte contre la drogue en Amérique latine, d'autres pays se sont intéressés à cette lutte-là et se sont impliqués dans cette lutte-là. On peut citer l'Allemagne qui a, dès les années 90, mis en place des programmes de coopération agricole et rurale dans les zones de production de cocaïne. L'Union européenne s'est également lancée dans les programmes de lutte contre la drogue. Elle a contrôlé notamment le blanchiment d'argent.
Cependant, quels résultats ont eu ces politiques à annoncer Gauthier? Lorsqu'on retrace un bilan de ce qui a été fait par les différentes puissances, on a cité les États-Unis, on a eu aussi l'Union européenne et au sein de l'Union européenne l'Allemagne sur la réduction justement de l'offre. Mais finalement, le résultat est plutôt négatif. En effet, la production de la coca, qui est la feuille à partir de laquelle on produit de la cocaïne, elle a baissé depuis le début des années 90 quand la fabrication de cocaïne en elle-même a, elle, augmenté depuis 2006. L'augmentation de cette fabrication, elle peut s'expliquer par l'inefficacité des programmes répressifs dont nous avons parlé précédemment, ainsi que par le manque de perspective globale du problème. On peut également mentionner la sophistication de la production agricole de la coca. On a donc un impact faible des politiques internationales dans les pays producteurs qui sont concernés, et un manque de ressources dans les pays concernés, dont nous avons parlé, donc la Bolivie, le Pérou, etc., pour faire face et lutter contre le trafic. Évidemment, ceci reste à nuancer puisque l'on assiste tout de même à la mise en place de politiques domestiques dans certains pays. On peut citer la Bolivie avec la politique du président bolivien Evo Morales qui est confronté au problème d'une économie agricole où la culture de la coca sacrée et ancestrale est une production majeure et donc le président désirerait l'industrialiser. Ceci néanmoins devra se plier évidemment aux exigences internationales. Gauthier, un mot pour conclure peut-être?
Toujours. J'aime beaucoup les conclusions, moi, c'est mon job. Pour conclure, donc, on peut dire que que la lutte contre les drogues ne peut certes pas se faire sans une coopération internationale, mais que pour autant, les États latino-américains semblent devenir de plus en plus des acteurs décisionnaires de l'action publique mise en place. On peut donc espérer que ça s'améliore à l'avenir.
Bienvenue dans La Grande Réorientation, une chronique du géopolitique menée avec brio par Lamia. 5 minutes de décryptage pour comprendre sans détour la géopolitique du Grand Moyen-Orient.
Lamia, on te retrouve comme pour chaque semaine pour ta chronique La Grande Réorientation. Et cette semaine, on va s'intéresser à Erdogan et la religion. Donc comme Lamia, tu nous fais souvent des épisodes en deux parties et on apprécie beaucoup ça. Peut-être que tu peux nous faire un petit recap de ce que tu avais dit la fois dernière.
Effectivement Manon, alors la semaine dernière, si vous vous souvenez bien, je vous avais parlé de Mustafa Kemal, l'Atatürk, et des très larges réformes qu'il avait mises en place dans la Turquie post-Empire ottoman. Et j'avais également mentionné à la fin de l'épisode une date, celle de 1979, la révolution islamique en Iran qui avait provoqué des ondes de choc. C'était fait ressentir notamment dans la Turquie avec la montée du parti de l'AKP, donc celui d'Erdogan, qui a d'abord été maire de la Turquie et qui ensuite a été élu président en 2014. Alors AKP, il ne me semble pas l'avoir précisé la dernière fois, mais ça veut dire donc le parti de la justice et du développement. Et donc l'arrivée au pouvoir d'Erdogan provoque notamment des inquiétudes sur le retour ou non du fait religieux dans l'espace public alors que ça va bientôt faire un siècle qu'on a connu la période kémaliste.
Et donc tu l'as dit, la période kémaliste elle est assez pérenne puisqu'elle dure tout de même un certain temps. Mais donc quels sont les rapports qu'a Erdogan envers ce kémalisme, et notamment il y a quand même un grand lien avec la laïcité.
Oui, effectivement, Manon, c'est très intéressant cette impression qu'a Erdogan par rapport au kémalisme. Alors, il a tendance à définir cette période kémaliste comme une parenthèse, ce qui est quand même un euphémisme hein, quand on connaît la portée des réformes mises en place par Mustafa Kemal et effectivement sa pérennité, comme tu l'as mentionné. En fait, pour Erdogan, le régime de Mustafa Kemal était un régime post-ottoman et pour lui, c'est un régime qui est dépassé puisque aujourd'hui, on doit revenir à cette gloire ottomane qui a été remise en question, soi-disant, par Mustafa Kemal étant donné qu'il a entrepris des réformes laïque par opposition à la figure du calife dans l'Empire ottoman. Aujourd'hui, pour Erdogan, la Turquie est une puissance qui dispose de suffisamment de matière pour pouvoir se détacher du kémalisme qui est vu finalement comme un rapprochement très fort avec l'Occident. C'est-à-dire très simplement que la Turquie est capable d'adopter sa propre conduite, sa propre particularité. C'est donc une excuse pour finalement cette baisse de la laïcité. D'ailleurs, ce que Mustafa Kemal a tendance à dire, c'est que les individus ne peuvent pas être laïcs, par contre l'État peut l'être.
Très bien, et donc cet éloignement de la part d'Erdogan envers ce kémalisme, par quelles mesures concrètes il s'articule ?
Alors d'abord, le plus important, c'est un retour très fort du foulard, donc du voile, dans l'espace public. Un exemple très concret aussi, c'est les modifications qui ont eu lieu au sein de l'église Sainte-Sophie, qui est d'abord devenue une première fois la mosquée Hagia Sophia en 1453 lors de la prise de Constantinople par les Ottomans. Elle a été ensuite transformée en musée sous Mustafa Kemal et enfin transformée donc de nouveau en lieu de culte, en mosquée par Erdogan. Alors cette implantation de lieux de culte musulmans au sein de la Turquie, il n'est pas isolé au cas de l'église Sainte-Sophie, hein, puisqu'on a eu près de 12 000 mosquées qui ont été construites depuis son arrivée au pouvoir. On a également le développement de ce qu'on appelle des écoles imamatiques, donc en fait ce sont des écoles religieuses où 25% des cours sont en fait liés plus ou moins à l'islam sunnite, mais en fait ces cours ont toujours un rapport avec la religion, et selon l'OCDE, donc l'enseignement y est largement inférieur à celui des écoles laïques. On a une très forte implication de la jeunesse également via l'exemple d'une vidéo dont je vais vous parler, qui est une vidéo qui a été diffusée par Erdogan, une vidéo de quasi-propagande hein, à la destination de la jeunesse, qui énumère des figures spirituelles, intellectuelles de l'islam sunnite, qui sont largement liées donc, à la tradition musulmane que veut promouvoir Erdogan. On a une apologie qui est faite d'hommes qui seraient censés s'incarner dans la figure d'Erdogan, notamment Moussab ibn Umayr, donc le compagnon du prophète, le sultan Mehmed II, Suleyman, qui a régné sur les trois continents. Et donc je cite hein, l'injonction qui a lieu à la fin de la vidéo, qui s'adresse donc à la jeunesse, tu es l'espoir de la Turquie, tu es la Umma, c'est-à-dire la communauté des croyants, tu es Erdogan. C'est donc des figures qui sont clairement censées façonner l'identité de cette jeunesse turque.
Et face à un peuple qui a connu cette laïcité pendant, on l'a dit, plus de 100 ans, on peut peut-être imaginer des contestations au sein de ce peuple.
Évidemment, il y a beaucoup de contestations, hein, puisque les mesures de Kemal, comme je l'ai déjà dit, elles étaient quand même pérennes, elles étaient ancrées au sein de la société, qui était attachée à ce sécularisme. Je peux citer un exemple, hein, assez parlant, je trouve, qui est que lors de l'arrivée au pouvoir de Erdogan, on a des membres de l'armée kémaliste qui ont refusé de se tenir dans la même pièce qu'une femme qui portait le voile, en l'occurrence, la femme de Erdogan. Pourquoi ? Puisque l'armée, c'était un des ressorts principaux du régime kémaliste, qui était un régime autoritaire de fait, mais qui était très attaché à la laïcité. Alors au-delà de l'armée, on a des associations de mémoire pour Mustafa Kemal qui pensent donc que son héritage est toujours en actualité et qu'il est toujours au fondement de la République de Turquie. Ils insistent notamment sur le fait que les dispositions prises par Erdogan sont corrélées à une diminution des acquis féministes pour la gente féminine de manière générale. Alors ce sont des revendications et des protestations qui se localisent surtout au niveau de la côte égéenne où on a un reflet du culte de la personnalité ou plutôt du reste du culte de la personnalité de Mustafa Kemal qui est très présent. Je rappelle que sur les 8 jours fériés qui sont commémorés en Turquie, 4 sont donc commémorés à l'honneur du père des Turcs, donc de Mustafa Kemal, qui reste une figure tutélaire en Turquie malgré tout, hein, puisque insulter sa mémoire peut quand même être passible de prison. Alors au niveau de la jeunesse, je parlais tout à l'heure des écoles, on a également des jeunes qui rejettent cette injonction très forte à la pratique de l'islam en se revendiquant comme déistes, voire même athées. Alors je peux vous citer quelques chiffres, hein. Depuis 2008, on a une baisse de 7% des jeunes qui se déclarent religieux. C'est exactement les dates où l'arrivée au pouvoir de Erdogan va se faire ressentir, même si une des conséquences majeures de cette baisse de religiosité, ce sont des discriminations, hein, tout simplement, puisque les personnes qui se déclarent comme non-musulmanes subissent parfois des baisses de salaire, très concrètement. Ensuite, on a une tendance, alors qui n'est pas drastique, mais qui est intéressante si on prend en considération tous les efforts d'Erdogan pour réimplanter la religion musulmane dans l'espace public, c'est que 34% des femmes portaient le voile en 2020, contre 37% en 2010, donc on a donc une légère baisse. Et idem pour la pratique du jeûne, elle est aujourd'hui à 65% en Turquie, contre 77% en 2010.
Merci Lamia, et peut-être pour terminer, quel impact portait plus global c'est les prédispositions qu'a pris Erdogan sur la Turquie ?
Oui, alors l'impact majeur, c'est une fracture en fait, qui va venir diviser la société entre une société qui se revendique comme laïque, aux valeurs aujourd'hui qu'on associe plutôt à l'Europe, et puis une autre partie de la société, hein, donc assez conservatrice, c'est d'ailleurs elle qui va venir élire Erdogan, puisqu'elle se sentait délaissée face aux acquis kémalistes, qui revendique en fait une vision de l'identité turque comme prenant ses racines dans la religion musulmane. Et puis pour la porter, je pense que ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Erdogan est arrivé au pouvoir entre 2000 et 2010, puisqu'il a d'abord été maire avant d'être président, et c'est en fait, son arrivée au pouvoir coïncide avec la majorité d'une génération qui n'a connu que lui, en fait, qui va bientôt avoir 18 ans. Il sera donc intéressant d'observer les choix électoraux que feront ces jeunes, alors même qu'ils ont connu leur jeunesse sous le pouvoir d'Erdogan.
Merci Lamia, nous ne manquerons pas de garder les yeux sur cette Turquie. C'est donc la fin de ce 6e épisode du Géopolitique, comme toutes les semaines. Merci à Antoine, Lamia et Gauthier sur le plateau, ainsi qu'au reste de l'équipe qui a pu produire cet épisode. On espère que, encore une fois, vous avez été captivés par nos informations, et on vous retrouve, comme d'habitude, tous les lundis à 9h.
Dans la joie et la bonne humeur. Avec une véritable war on drugs.
Je sais, j'arrivais pas à le prononcer.
Et on a plus loin d'être devant vous, parce que vous allez.
Non mais ça c'est super dur à dire.